Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager ce soir deux textes, surtout un, qui nous rappelle que Dieu ne veut pas que notre foi défaille. Il y en a un qui voudrait que notre foi soit vacillante. Vous savez qu'il y a des prophéties, il y a beaucoup de prophéties. Ce matin, je lisais l'apôtre Pierre, je lisais l'épître de Paul à Timothée, et vous voyez qu'il y a des prophéties qui expliquent, qui annoncent l'abandon de la foi. Le Seigneur Jésus en parle lorsqu'il pose une question dans l'évangile de Luc. C'est un des deux textes qu'on va lire ensemble. Il y a des questions. Je vous ai souvent dit que dans la Bible, Dieu pose des questions et c'est à nous d'y répondre. C'est une question presque de politesse. Quand on pose une question, on répond. Luc chapitre 18, c'est une parabole qui enseigne une vérité profonde. Il y a des promesses dans cette parabole, à savoir que Dieu fait justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et ce n'est pas parce que Dieu fait des promesses que les gens vont céder et être bouleversés. La preuve. Luc 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on ne se relâche pas parfois? Il y a un chrétien qui est baptisé depuis peu qui me disait « Je me suis rendu compte ». Quand il y avait une prophétie sur la paresse il y a une quinzaine de jours, le frère me disait, je me suis rendu compte, il n'y a que moi que je suis baptisé et je suis déjà devenu paresseux. Est-ce que vous vous rendez compte? Un mois de conversion et le gars, il s'est déjà fait piéger par la paresse. Donc Jésus sait très bien ce qu'il dit. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ça arrive souvent, ça. Pendant longtemps, Dieu refuse sa bénédiction. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. » Donc c'est des promesses ça. Mais il y a la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, donc ça concerne la fin, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un petit peu plus loin, au chapitre 22, il y a le Seigneur Jésus qui s'adresse à un de ses pasteurs, à un de ses serviteurs, à un de ses enfants. Il y a un besoin, il y a un problème. Vous savez, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas trop où nous en sommes parfois. Est-ce que vous savez où vous en êtes avec Dieu? Est-ce qu'on sait vraiment où on en est? On ne sait pas trop. Il y a des gens, ils s'éloignent de Dieu, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Mais Dieu le sait. Et regardez ce qui se passe, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Je relis cette partie car c'est celle qui nous intéresse ce soir. J'ai prié pour toi. Est-ce que vous savez qu'il est dit dans la Bible que le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous? Je ne sais pas si vous savez, mais Jésus prie pour nous. Ça nous dépasse un peu tout ça, mais c'est quand même écrit que le Seigneur intercède à la droite du Père pour nous. Heureusement que le Seigneur prie pour nous. Pour toutes les fois où on a oublié, peut-être. Hein? Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Voilà. Est-ce que vous voulez être en bénédiction aux frères et aux sœurs? Je répète la question. Est-ce que vraiment vous voulez être en bénédiction aux autres? Dieu le sait et Dieu le veut. Donc, on pourrait prendre des prophéties qui indiquent, hélas, qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, que les gens abandonneront la foi. C'est un des signes de la fin des temps. Donc la question est très sérieuse. Le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi dans votre cœur, dans mon cœur? Voilà. Trouvera-t-il cette véritable confiance, cette foi qui plaît à Dieu? Je ne parle pas de cette croyance. Dieu ne dit pas, quand le Fils de l'homme viendra, les gens iront-ils dans les églises? Les églises seront-elles pleines? Les gens se promèneront-ils avec la Bible sous le bras? Non. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui n'ont pas la foi. La question, elle est très sérieuse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui fait que tout à l'heure, moi j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour prier pour quelqu'un qui voudrait voir sa foi être fortifiée. Est-ce que quelqu'un peut... Moi, je vais le demander. Je demanderai aux anciens de prier pour moi. Parce que moi, je voudrais que Dieu me renouvelle aussi. Ce n'est pas parce que je prêche que je n'ai pas besoin d'être renouvelé. Est-ce qu'on peut dire, mais moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Prier pour moi. Est-ce que c'est un scoop? Ou est-ce que c'est bien qu'on ait cette liberté de dire, mais j'ai besoin qu'on prie pour moi? Plutôt que de la jouer, je ne sais pas quoi, que ça ne sert à rien, mais d'avoir cette liberté de dire, mais priez pour moi. J'ai besoin que l'on prie pour moi. C'est biblique, parce que cette foi vivante, elle doit être entretenue. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Est-ce que Jésus aurait pu dire à Pierre, écoute, le diable il t'a réclamé pour te cribler, mais t'inquiète, ça ne t'arrivera pas, parce que j'interdirai que ça arrive. Est-ce que Dieu aurait pu interdire cette épreuve? Mais bien sûr, Dieu peut tout. Mais Dieu permet certaines épreuves pour que justement nous apprenions à prier les uns pour les autres afin que notre foi ne vacille pas. Et ça, c'est un problème. Les gens, ils voudraient que tout soit rose, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'épreuves. Et souvent dans les épreuves, Jésus le dit, ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute alors que chaque épreuve devrait être une occasion de voir notre foi se fortifier. Dieu veut soutenir notre foi. On aurait été à l'aise ce soir de prendre plein de textes où on voit que Dieu veut nous soutenir. Est-ce qu'il y a plein de textes dans la Bible où Dieu dit qu'il nous soutiendra? Oui. Et c'est un peu le sujet de ce soir. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire, la foi. La foi, c'est une grâce. La foi, c'est une grâce. La foi, c'est aussi un don. Dans les Corinthiens, il est parlé du don de foi. Est-ce que notre foi peut se développer de sorte que, eh bien, Dieu peut nous utiliser davantage avec la foi? Est-ce que vous soupirez à cela? Est-ce que vous contentez d'une petite foi, puisque Jésus a dit à une femme, ta foi est grande. Est-ce que vous voulez que votre foi grandisse? Ou est-ce que vous voulez avoir une foi en bâton de chaise, comme on dit, une foi croyante? Il y a des gens, vous croyez? Oui, je crois bien. L'autre jour, j'étais à l'enterrement, il y avait une dame qui me disait, vous espérez vraiment? Vous espérez vraiment? Vous croyez ce que vous avez dit? Ça m'a fait pitié, quoi. La femme, elle est une chrétienne. Elle espérait que ce qui est écrit est vrai. Mais je n'espère pas, je sais que c'est vrai. Vous voyez, il y a des gens, ils ont une foi, ils n'ont pas la foi. Ils espèrent. Mais quand ils espèrent, en vérité, ils espèrent que c'est vrai. Vous voyez un petit peu la foi qu'ils ont. Ce n'est pas la foi, ça, en tous les cas. Nous devons vivre par la foi. Un chrétien, il ne dit pas, moi je suis évangélique, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptisé depuis 20 ans, moi je suis moniteur de l'école du dimanche depuis 25 ans, moi je m'occupe... Oui. La question que Dieu peut nous poser, est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu as toujours la foi? Car tout doit être fait par la foi dans le royaume de Dieu. La vie est faite de luttes. Tout à l'heure, avant de venir, j'avais un petit peu de temps et je lisais Job. La souffrance de cet homme, les luttes de cet homme, les combats de cet homme. On va lire juste un ou deux versets, j'en ai parlé dernièrement, mais ça vaut quand même la peine de comprendre que notre vie, elle est faite de luttes et de combats. Vous êtes d'accord en fait? J'espère, parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous vivez dans un autre monde. Regardez, Job, pourtant c'est un homme que Dieu a dit qu'il était intègre et droit. Et pourtant cet homme, qu'est-ce qu'il a souffert? Je relisais ce texte dans Job chapitre 10. Regardez ce qu'il dit. Il a traversé des épreuves. Je répète que c'est un homme qui a été intègre, mais il souffrait. Et quand on souffre, eh bien, on dit certaines choses. Job, chapitre 10, verset 1er. Regardez ce qu'il dit. Mon âme, qu'est-ce que vous avez dans votre version? Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Au chapitre 9, verset 21. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Quand vous lisez Job, vous vous dites à un moment donné, c'est Dieu qui a dit de lui que c'était un homme intègre et droit. Oui, parce que la vie est faite de souffrance. Et lisez ce chapitre et vous verrez à la fin que Dieu dit que cet homme, il a toujours parlé avec droiture. Mais la souffrance, elle peut nous faire redire certaines choses. Il faut le dire, c'est écrit. Quand vous lisez, allons un peu plus loin, dans le psaume 42 et 43. Je lisais ces deux psaumes cet après-midi parce qu'il faut comprendre que notre foi, elle est continuellement attaquée. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne veux pas que ta foi défaille. Si vous lisez le psaume 42 et le psaume 43, vous avez lu ces psaumes. Si vous découvrez l'évangile, peut-être pas, mais c'est des psaumes qui expriment la souffrance. On voit un homme qui souffre, regardez le verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Peut-être que ça ne se voyait pas, mais à l'intérieur, il y avait vraiment de la souffrance, des gémissements. Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas le montrer, parce que par pudeur, et puis ça ne regarde personne, de souffrir intérieurement alors que les autres ne le voyaient pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive. « Mon âme gémit au-dedans de moi. » Voyez, au verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Ce sont des combats intérieurs, ce sont des choses que les autres ne voient pas. Et heureusement, ça ne les regarde pas en plus, parce qu'en plus, ils ne sont pas capables de nous aider. Verset 10, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? 43, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Bon, enfin, quand vous lisez certains psaumes, vous vous rendez compte d'une chose, que nous sommes dans des combats, dans des luttes, dans de l'oppression. Et croyez-moi, si nous ne voulons pas que notre foi défaille, nous avons besoin les uns des autres. Et que s'il y a bien une chose que le diable veut, c'est nous isoler, comme vous avez déjà vu des reportages en Afrique, sur la façon dont les lions chassent. Vous avez tous vu ça. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il fait le lion? Qu'est-ce qu'il cherche dans un troupeau? Ben, la plus faible qui s'éloigne. Mais c'est pas nouveau. C'est pas ça aussi, j'espère que c'est pas un scoop. Et qu'est-ce que le diable il fait? Il cherche, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, celui qui va s'éloigner. Il se dit, oh, c'est pas grave, moi je peux. On a besoin les uns des autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous pensez que vous pouvez vivre votre foi tout seul, vous êtes déjà séduit par les ruses de l'ennemi. La personne la plus forte de l'Église, la plus forte qui existerait, eh bien, elle sera forte justement parce qu'elle sera avec les autres. Et c'est pas possible d'être fort tout seul dans le royaume de Dieu. Montrez-moi-le, prouvez-moi-le, et je changerai ma prédication. On est souvent dans la prière que cet homme a fait un jour quand il s'est approché de Jésus, qui a dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des fois, on dit « Oui, mais bien sûr que je crois, mais Seigneur, viens à mon secours ». Paul parle de ceux qui sont faibles dans la foi. Ça arrive. La Bible parle « Fortifier, soutenir celui qui est faible dans la foi ». Il y a des chrétiens qui restent faibles. Ils restent faibles parce qu'ils ne veulent pas être fortifiés. Ils ne prennent pas le temps de se nourrir suffisamment, de prier de tout leur cœur, d'avoir une vie d'église qui corresponde. Ce soir, vous avez certainement voulu venir parce que vous avez dit « Je veux que le Seigneur me parle, je veux aller prier avec des frères, avec des sœurs, je veux combattre le bon combat ». Il y a des gens qui restent faibles. Alors bon, c'est vrai que c'est déplorable. La Bible dit « Supportez ceux qui sont faibles ». Moi, je le sais en tant que pasteur, il y a des gens, ils sont toujours faibles. Ça fait 5 ans, 10 ans que je les suis, 20 ans, ils sont toujours faibles. Il y a des gens, ils sont faibles, et comme par hasard, quelques semaines après, ils sont forts. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont pris la décision d'être fortifiés, de se fortifier dans le Seigneur en obéissant à la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il était sur la montagne, il priait, il fallait qu'il lève les mains. Dieu le lui avait demandé, c'est l'image d'une foi vivante. Et à un moment donné, il est dit que ses bras se sont affaiblis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a râlé? Est-ce qu'il a dit, oh, Dieu m'a demandé quelque chose, je ne peux pas le faire? Est-ce qu'il a râlé? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé de l'aide. Et il y a deux frères qui sont venus et qui l'ont soutenu. Mais c'est exactement le sens de la réunion de ce soir. Avoir le bon sens de dire, aidez-moi, soutenez-moi, priez pour moi. Une dame me disait ce matin, oh, j'ose pas demander l'aide. Mais j'ai dit, mais c'est ridicule, demandez du secours. Nous sommes dans l'Église, nous avons le devoir de vivre les uns, vous avez vu cette expression, les uns les autres. Est-ce qu'elle revient souvent dans la Bible? Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Supportez les stagiaires les uns les autres, etc. Est-ce que c'est écrit? Non, pas ça. Est-ce que c'est écrit de nous aimer les uns les autres? Oui, c'est écrit. Eh bien, nous devons le faire. Ce soir, si vous avez un problème, vous devez aller voir quelqu'un et dire, frère, sœur, priez pour moi. Soutenez-moi. Moïse a été soutenu et ses mains sont restées fortes, fortifiées, jusqu'à ce que les autres soient dans la victoire. Si vous ne demandez pas de l'aide, votre foi défaillera. L'apôtre Pierre pensait que, il se connaissait pas, on ne se connaît pas. Ne jouons pas les caïds, ne jouons pas les cacous, comme on dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est écrit. Et c'est pour cela que nous ne savons pas où nous en sommes et que nous avons tout intérêt à dire, mais priez pour moi. Moi, tout à l'heure, je veux qu'on prie pour moi. Je ne dis pas ça pour donner un exemple, mais j'y ai pensé aujourd'hui. Moi, je veux qu'on prie pour moi. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est pour donner l'exemple que je le fais? Ou est-ce que c'est biblique? Est-ce que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a demandé aux chrétiens de prier pour lui? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Paul dit quelque part, priez pour moi? Ben, si lui l'a fait, je ne vois pas qui pourrait se permettre de ne pas le demander. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Comment les autres pourront nous soutenir si nous ne le demandons pas? C'est comme des fois des gens qui m'ont reproché, monsieur Go, quand même, vous auriez pu aider monsieur un tel, il est dans l'embarras. Et bien j'ai dit, mais on ne le sait pas. Des fois on nous demande d'aider des gens, on ne sait pas qu'ils sont dans le besoin. Je pense que c'est la moindre des choses. Ah, mais je pensais que vous auriez deviné. Je assure que le bon sens, c'est quelque chose qu'on peut quand même demander à Dieu. Je pense qu'on doit faire connaître les besoins. Est-ce que c'est biblique ça aussi? Faites connaître vos besoins à Dieu, mais également aux frères et aux sœurs de l'Assemblée. Oui, Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est la preuve qu'il faut que nous prions les uns pour les autres, afin que notre foi ne défaille pas. Je ne sais pas si vous avez à cœur les autres, les frères et sœurs de l'Église. C'est une question, je vous la pose sérieusement, est-ce que vous priez pour les autres? Ou est-ce que vous priez que pour vous? Est-ce qu'il y a écrit « Priez chacun pour soi » Non. Est-ce que c'est écrit comme ça? Eh ouais, mais il y a des gens qui prient que pour eux. Moi, les autres, ce n'est pas mon affaire. Moi, je prie pour moi, j'en ai assez avec mes affaires. Eh bien, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas comme ça que Dieu vous bénira. La Bible est catégorique, priez les uns pour les autres. Et vous devez prier pour votre Église, pour vos pasteurs, pour la nation. Vous devez prier pour le gouvernement. Ce sont des choses que Dieu aime. Ce sont des choses que Dieu bénit. La question, elle est sérieuse. C'est le maître qui la pose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et moi, je peux vous dire qu'il y a bien des endroits où Dieu ne trouvera pas la foi. Tout à l'heure, on parlait avec les stagiaires, des gens, vous voyez, qui sont tout le temps dans le très, très, très spirituel, qui voient des démons partout. Je me souviens de ce frère qui était venu ici et qui avait été à Paris. J'ai déjà donné l'exemple, mais c'est pour vous dire, il avait été à Paris parce qu'il y avait un grand évangéliste de passage. Il voulait être délivré du démon de la colère. Et je lui ai dit, mais tu as lu la Bible? La Bible dit que la colère, ce sont les œuvres, c'est terrestre. C'est terrestre. C'est écrit dans les Colossiens. Fuyez ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, etc. Renoncez à ces choses. Voyez comment les gens ne lisent pas la Bible. Pourquoi la foi des gens défaille? Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Vous pouvez dire au Seigneur, augmente ma foi. Si vous ne lisez pas la Bible, cette prière, ne la faites pas. Parce que si Dieu vous demandez à Dieu, augmente ma foi, c'est obligé que Dieu, par son esprit, vous dise, tu veux que ta foi augmente. Eh bien, lis la Bible. Et moi, je vois, il y a des chrétiens qui ont des années de conversion, qui sont dans un mélange pas possible, et leur foi est vacillante, et leur foi n'augmente pas. Oui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, croyez-moi que dans beaucoup d'endroits, la foi diminuera. Qui est le mieux placé pour évaluer notre foi? C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. C'est la preuve qu'il n'y a que lui qui peut évaluer notre foi. Et il n'y a que lui qui peut ce soir vous dire, me dire, fais attention, afin que ta foi ne défaille pas. Oui, on ne s'en rend pas compte. Moi, je me posais la question aujourd'hui, mais est-ce que nous nous rendons compte lorsque les gens perdent la foi? Il est parlé de gens qui ont perdu la foi. Est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose, de perdre un habit, de perdre vos clés? Mais il y a déjà, ah, j'ai perdu ça, je ne sais pas où c'est. Bon, ce n'est pas grave quand c'est une écharpe, quand c'est un manteau, bon, c'est un peu plus inquiétant. Mais quand c'est la foi, les gens ne se rendent pas compte et c'est trop tard. Ils ont perdu la foi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment pouvons-nous être agréables à Dieu? Comment pouvons-nous être sauvés? Comment pouvons-nous avoir de l'assurance quand nous prions? Par la foi. C'est comment qu'on est sauvés? Pas la foi. par la grâce, mais par le moyen de la foi. La Bible dit que comment on peut être agréable à Dieu ? En allant à toutes les réunions, parce que c'est bien d'aller à toutes les réunions ? Non, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit. Hein ? Comment avoir de l'assurance quand on prie ? Est-ce que ce n'est pas bien de prier ? Pourquoi vous ne priez pas dans l'église ? Peut-être parce que vous n'avez pas cette assurance. Mais laissez-moi vous dire qu'on a tout à gagner à faire en sorte que tous les chrétiens dans l'église se mettent à prier. Est-ce que c'est biblique de lever la voix vers Dieu, de prier tous ensemble ? Est-ce que ça plaît à Dieu, ça ? Eh bien oui. Et nous ne devrions pas lâcher un pouce à Satan. Nous devrions justement dire, on va obéir à Dieu, on va prier ensemble, parce que Jésus a dit que ma maison serait une maison de prière. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas, on ne va pas se contenter de religiosité. Il y a beaucoup de chrétiens, ils se contentent de religion. Ils viennent à l'église le dimanche. Mais la question, ce n'est pas que quand le Fils de l'homme viendra, les gens iront-ils à l'église ? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Quand vous lisez le livre des Actes, je vous donne un verset, Actes 14, 22, ne le cherchez pas. Les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Acte 16, 5, les églises se fortifiaient dans la foi. On pourrait prendre plein de textes. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes ? Les chrétiens, ils se fortifiaient dans la foi. Ce sont des commandements. Soyez fermes dans la foi. Comment y aura-t-il de véritables serviteurs et de véritables servantes dans l'église ? S'il y a des hommes et des femmes qui marchent vraiment par la foi. Notre service, votre service dans l'église, quel qu'il soit, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez des ados, vous vous occupez de la musique, je ne sais pas, de la louange, des visites, quelle que soit votre activité, Dieu réclame que nous ayons une vie de foi véritable, une vie de foi vivante. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais je fais ça dans l'église, mais tu le fais comment ? Est-ce qu'on le fait par la foi ? C'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous. Notre foi, elle doit être vivante. On le chante des fois, peut-être on va le chanter tout à l'heure. Ma foi, elle est vivante dans un Dieu vivant. Et la parole de Dieu a ce pouvoir de nous insuffler la foi. Cette personne avec qui je parlais ce matin me disait, voilà, je suis une mauvaise chrétienne, je suis fatiguée, j'ai des moments difficiles. Elle se plaignait. Je dis, mais tous on a des moments difficiles. Mais tous on a des moments difficiles, tous. La vie automatiquement nous expose à des combats. Il y a des gens qui ne supportent pas. Mais si vous ne supportez pas les combats, j'ai le devoir de vous dire que vous en aurez jusqu'à la fin. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais il faut que vous le sachiez, des combats, on en aura jusqu'à la fin. Est-ce que Dieu aurait pu faire en sorte que quand quelqu'un se convertisse, il n'y ait plus de combats ? Ben oui, mais Dieu a laissé les combats. Comme à Pierre, je vous dis, il n'a pas dit, ah, le diable t'a réclamé, mais t'inquiète pas Pierre, tu es mon ami, tu es mon enfant, ça ne t'arrivera pas. Non, tu seras criblé, tu seras éprouvé, mais je prie pour que ta foi ne défaille pas. Tout à l'heure, on chantait, quand il est dit, quand Satan veut te troubler. Quand Satan veut te troubler, vous savez, ça fait partie des combats, ça. Quand Satan veut te troubler, est-ce que ça arrive que l'ennemi cherche à nous troubler ? Ouais. C'était le troisième, je crois, cantique. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance. Vous savez, le diable, il a un certain pouvoir. Il n'est pas tout puissant, mais il a quand même la possibilité de nous troubler. Et si on ne lit pas la Bible, moi je vous le dis, ne priez pas, Seigneur, fortifie-moi. Si vous ne lisez pas la Bible, c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui dirait, oh, fortifie mon corps et qui ne mange plus. Vous lui diriez quoi ? Vous lui diriez, écoutez, ça serait bien que de temps en temps, tu prennes un morceau de pain. Oui ou non ? Seigneur, fortifie mon corps, j'ai besoin de force physique. Ça fait combien que tu n'as pas mangé ? Ça fait 3 mois. Ah, ça serait peut-être bien que tu penses. Mais vous diriez, mais tu es ridicule, il te faut manger. Mais il y a des chrétiens, ils s'imaginent, c'est ça la magie. Les œuvres de la chair, quand il est dit la magie, c'est des gens, ils s'imaginent que la vie avec Dieu, ce n'est pas du mysticisme. La vie avec Dieu, c'est des choses pratiques. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance. Je pensais à un texte dans le livre des Rois, vous pourrez le vérifier. J'y pensais, parce que bon, quand on chante, je vous l'ai déjà dit, j'essaie de penser à des textes bibliques. Vous savez la veuve de Sarepta, quand elle voit le pasteur arriver. Mais c'est impressionnant comment le diable il essaie de nous détruire avec notre passé. Regardez, tant pis, on va le lire. 1 Roi 17, puisque je vois que vous cherchez. Regardez cet homme, cette femme. Le prophète arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est malheureux quand même. Comment ? Parce qu'il y a la vraie culpabilité, et la fausse culpabilité. Regardez, le pasteur arrive. Quand elle voit le pasteur arriver, 1 Roi 17, verset 18, Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ?» Regardez bien, regardez la question qu'elle pose. On ne lui a rien demandé en plus. « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Mais vous vous rendez compte, elle voit le pasteur arriver, elle commence à penser à des choses, on ne sait pas, mais à quelque chose qui a dû arriver dans le passé. « Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Vous voyez, quand Satan veut te troubler, quand il essaie d'utiliser notre passé, est-ce que vraiment t'as fait ci, est-ce que vraiment t'as fait là? Écoutez, quand vous vous convertissez, votre passé, il est effacé. Vous le croyez ça? Mais si vous ne le croyez pas, vous n'avez pas la foi. Quand vous vous êtes converti, tout votre passé a été complètement effacé. Vous pouvez dire alléluia. Parce que croyez-moi que c'est une grande bénédiction. Et voyez comment on peut vivre dans la fausse culpabilité. Alors s'il y a une vraie culpabilité, tant mieux par contre. Si j'ai menti par exemple à Jérémy pour l'écharpe que je ne voulais pas lui rendre, bon, c'était une blague. Mais enfin, imaginons, j'ai menti. Est-ce que c'est normal que je me culpabilise après? Oh, j'ai menti à Jérémy. Oui, bien sûr, la vraie culpabilité, ça me permet de réparer. Je lui ai menti, bon, Jérémy, je te demande pardon, je t'ai menti, que ton écharpe, elle était jolie, elle n'est pas jolie du tout. Voilà, je lui dis la vérité. La vraie culpabilité, elle existe. Mais la fausse culpabilité, elle existe aussi. Par rapport au passé. Et le diable, c'est un pro, croyez-moi, de la fausse culpabilité. Et il faut, si vous voulez que votre foi soit forte, il vous faut accepter le fait que quand Dieu vous a pardonné votre passé, il a pardonné votre passé. Là, vous avez la preuve qu'on peut, tout d'un coup vivre mal avec son passé. Il faut résister au diable avec une foi ferme. Oui, la vie est faite de combats, de luttes. Moi, cette dame ce matin qui m'appelait, mais tu vois, voilà, est-ce que il y a 27 ans ou 28 ans, est-ce que c'était après votre conversion? Non, c'était avant ma conversion. Mais je dis, mais tout ça, c'est passé. Ça a été effacé. Vous croyez? Je dis, mais oui, ça a été effacé. Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Le diable rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, c'est-à-dire que le seul moyen, c'est de lire la parole du Seigneur. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Veillons, mes frères et sœurs. Il y a un combat. Il y a un combat, le combat de la foi. Est-ce que Paul parle du combat de la foi? Ah oui, il parle du combat. Il dit Paul, quand il termine sa vie, il dit « Moi, Paul, un vieillard, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat. » C'est ça que Dieu veut, que nous terminions la course et que les derniers jours de notre vie, nous puissions dire « J'ai gardé la foi. » Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut, que vous et moi, nous puissions dire « Oui, j'ai gardé la foi, une bonne conscience. » Moi, Paul, un vieillard, j'ai toujours une foi vivante. Des fois, on entend, oui, mais comment voulez-vous que je garde la foi avec ce qu'on m'a fait, avec ce qu'on m'a dit, avec ce que j'ai vécu dans l'église, avec ce que mon mari qui est inconverti, comment voulez-vous que je garde la foi? Mais c'est pas ça. Moi, je crois que quoi que ce soit que l'on vive, on doit garder la foi. Moi, Paul, j'ai gardé la foi. Pourtant, je trouve que des épreuves, il en a eu pas mal, l'apôtre Paul. Il a gardé la foi, le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des, croyez-moi, qu'il y a des mauvais combats. Quand on combat contre la chair et le sang, est-ce que c'est un bon combat? Quand on combat, eh oui, tu m'as dit ça, et je t'appelle, pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que c'est ça le bon combat de la foi? Non, le combat de la foi, par définition, c'est le combat de la confiance. Seigneur, tu vois ce qui s'est passé? Je le mets entre tes mains. Et si vous le mettez entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui s'en occupera. C'est sûr que si vous essayez de vous dépatouiller avec, Dieu s'en occupera pas. J'ai combattu le bon combat. Il y a des bons combats et il y a des mauvais combats. Et dans une église, si nous ne voulons pas que notre foi défaille, il faut apprendre à combattre le bon combat. Il y a des combats inutiles, il y a des combats charnels, il y a des combats qui sont vains, il y a des combats qui servent à rien. Le bon combat, c'est de garder la vision jusqu'à la fin. Dis voilà, Seigneur, tu combats pour moi. Vous croyez que Dieu peut s'occuper de tout? Ben oui, quand on met Dieu en premier, Dieu s'occupe de tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données. Alors, faisons attention à cette culpabilité. Il y a des gens, alors quand ils pêchent, ils ne le règlent pas. Ils ne le règlent pas. Mais c'est pour vous dire combien l'homme est compliqué. Et il y a des gens qui sont tout le temps en train de se reprocher des trucs du passé. Je crois que moi j'aime beaucoup la prière de l'apôtre Pierre quand il prêche à la Pentecôte. Vous avez renié le saint et le juste. Moi je me serais tu quoi. Vous avez renié le saint et le juste. On aurait pu dire, écoute, t'as pas fait mieux. Mais quand on est pardonné, ça veut dire quoi ça? Que quand Dieu pardonne, il pardonne. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez vraiment au pardon de Dieu? Peut-être que vous avez du mal à croire au pardon parce que vous ne pardonnez pas. S'il y en a qui ont mal, du mal. Moi, je pense que si vous ne pardonnez pas, vous avez un problème avec le pardon. Mais quand nous, petits que nous sommes, nous pardonnons, nous savons que nous avons pardonné. Ben alors, si nous, on est capable de pardonner, à combien plus forte raison, nous savons que Dieu pardonne. Et quand Jésus sur la croix dit « pardonne-leur », car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils demandent à Dieu que les gens soient pardonnés, parce que lui déjà, il avait pardonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si nous réfléchissions à ces choses, nous ne vivrions pas comme cette pauvre veuve de Sarepta, je ne sais pas la faute qu'elle avait commise, peut-être qu'elle avait commis un truc grave, et quand elle a vu le pasteur, tu es venu pour me rappeler le souvenir de ma faute, mais quand Satan veut te troubler. Il ne faut pas accepter que Satan nous trouble. C'est pour ça qu'il faut faire la paix avec Dieu, connaître ce qu'il y a à connaître et ne pas vivre dans la confusion. Oui, il ne dit pas, moi j'ai gardé la croyance, je suis toujours un chrétien, je vais à l'église tous les dimanches. Non, j'ai gardé la foi. Mes frères et sœurs, posez-vous la question. Allez voir un pasteur, un ancien, quelqu'un capable de vous aider pour pouvoir faire véritablement le point par rapport à une véritable culpabilité. Parce que quand Dieu dit, mais ils ont perdu la foi et ils ont perdu la conscience. Vous vous rappelez, c'est quand Dieu dit au pasteur Jonas, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Il s'est irrité. Bon. Toute une vie de se convertir et lui s'irrite pour un truc bête comme tout. Et vous savez ce qu'il répond? Dieu lui pose la question, fais-tu bien de t'irriter? Et il dit, oui. C'est pour vous dire qu'on peut perdre la conscience. Et tout en étant pasteur, oui, vous avez la preuve. Et quand on commence à justifier certaines choses, c'est temps de réagir. Et moi, j'ai vu des chrétiens qui justifiaient certaines choses. Bon, pour moi, c'est le voyant rouge qui s'allume. Vous savez, c'est comme quand on est sur la voiture, le voyant de l'huile s'allume, il est temps de s'arrêter. Et quand on justifie certaines choses que Dieu n'approuve pas, c'est la preuve que notre foi est en train de défaillir et qu'il faut dire non, je refuse. Je sais que j'ai un Seigneur dans le ciel qui prie pour moi, mais je vais demander à des frères et à des sœurs qu'ils me soutiennent parce que je ne veux pas perdre la foi. Parce que la question de Jésus, c'est archi grave. Hein. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Moi, ça m'arrive des fois de pianoter sur Internet pour aller voir des églises, et moi, je peux vous dire, sans me prendre pour un honneur de leçon, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'églises, ils entendent des prédications, que ça n'a rien à voir avec la foi que Dieu demande. Et ces gens sont en train de perdre la foi parce qu'ils croient n'importe quoi. Le bon combat de la foi, c'est un combat aussi, par rapport à ce que je viens de vous donner, mais par rapport à la tentation. La tentation, est-ce qu'il y a des tentations? Allez, dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des tentations? Est-ce qu'il y en a des tentations? C'est un truc de fou, les tentations. Il y en a pour tout, pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, il y a des tentations à tous les niveaux. Eh bien, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, délivre-moi du malin? Est-ce que ce n'est pas l'enseignement que Jésus a laissé dans le Notre Père? Il y a déjà, il récite le Notre Père qui est aux cieux. Mais on peut dire, Seigneur, délivre-moi du malin. Délivre-moi de ces ruses. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Est-ce que quand vous commencez la journée, et que de tout votre cœur, vous dites, Seigneur, cette journée, je vais partir, délivre-moi des ruses du malin. Mais il le fera. Il le fera. Moi, je suis convaincu que Dieu nous aidera. Mais il faut le lui demander, pas par superstition, mais le faire avec foi, mes frères et sœurs. Oui, que notre foi ne défaille pas. Nous pourrions dire beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on termine en priant. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a qui veulent prier pour moi? On va fermer les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord? On va fermer les yeux. On va chanter « Ma foi est vivante ». Vous voulez que votre foi soit vivante? Qui veut une foi vivante? Il y a des gens qui... Moi, j'ai vu des gens qui disent « Je veux être serviteur de Dieu, je veux être une servante » et qui sont complètement éteints. Qui ce soir veut dire « Moi, je veux une foi vivante. Je veux que ma foi soit fortifiée. Je vais lire la Bible avec mon cœur. Oui, j'ai des luttes et j'ai des combats. Oui, je suis parfois même dégoûté de la vie. Ça n'a pas empêché Job de faire une belle expérience avec Dieu. Et quand Dieu lui a demandé de prier, vous lirez Job 42, vous allez voir comment Dieu va bénir cet homme. Il a demandé, tu vas prier pour tes amis. Et Dieu l'a relevé quand il a prié pour ses amis. Alléluia. Alors on va chanter ce cantique. Voilà, si quelqu'un a besoin de prière, venez et dites-moi, je veux que Dieu bénisse mon foyer. Si vous n'avez pas envie de parler, ne dites rien. Mais Dieu verra votre cœur. Et je crois qu'on va faire une belle expérience avec Dieu. Ne passons pas à côté de la grâce de Dieu. Le Seigneur, il l'a dit à Pierre, c'est pas possible. Il le dit à chacun de nous. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Personne ne va se mettre devant Dieu un jour et dire « Ouais, tu ne m'as pas soutenu, ce n'est pas vrai. » Si on n'a pas été soutenu, c'est qu'on n'a pas voulu l'être. Si on veut, on peut se soutenir les uns les autres et rester fidèles jusqu'à la fin.